Dans la forêt, une histoire culturelle. Le podcast de l'exposition du même nom, à écouter dans l'exposition ou en se déplaçant.
Als Begleitung in der Ausstellung oder für unterwegs. In dieser Episode.
Dans cet épisode, il est question d'un homme qui a consacré sa vie à la forêt.
Er war ein Aussteiger im klassischen.
C'était un explorateur et aussi un chercheur.
Wir erzählen die Geschichte von Bruno Manzer, Aktivist.
Nous racontons l'histoire de Bruno Manzer, militant pour la forêt tropicale, un champion de la protection de la forêt et des personnes qui y vivent. Christophe Keller s'entretient avec Lucas Stroman, directeur du Bruno Manzer.
Geschäftsführer des Bruno Manzer Fonds. Lucas Stroman, wenn wir heute auf die Satellitenkarte des
Lucas Stroman, si vous regardez aujourd'hui la carte satellite de la forêt de Bornéo du Sarawak, là où Bruno Manzer a séjourné, là où il s'est rendu. Si nous regardons ces cartes satellites aujourd'hui, que voyons-nous ?
Wir sehen wenige, ganz wenige Gebiete von unberührtem Wald, also zusammenhängende.
Nous voyons peu. Très peu de zones de forêt intactes. Donc des zones de forêt primaires intactes. Et nous voyons de très nombreuses zones de forêt secondaires dans lesquelles s'étend un réseau routier finement ramifiés, comme des vaisseaux sanguins, des capillaires. Ces routes de bûcherons que nous voyons sur l'image satellite feraient deux fois le tour de la Terre. Et ce, dans un État qui n'est que trois fois plus grand que la Suisse. Cela montre à quel point la forêt a été exploitée de manière intensive et à quel point la forêt est exploitée à la place de la forêt primaire intacte. Les forêts primaires vieilles de plus de milliers d'années ont donc été abattues. Et aujourd'hui, ce sont des surfaces forestières dégénérées. En partie, si elles n'étaient plus touchées pendant, disons, 30 ou 40 ans, elles pourraient très bien se rétablir sous le climat tropical. Mais les très vieux troncs, eux,
manquent.
Et pourquoi cette destruction ?
Tropische Harthölzer gehören zu den wertvollsten.
Les bois durs tropicaux font partie des matériaux de construction les plus précieux. Ils font partie des matières premières les plus précieuses pour la production de meubles et ils ont été développés de manière très ciblée, également pour des raisons politiques par le gouvernement de l'État du Sarawak, dans lequel Bruno Manzer a vécu 6 ans. Ces bois durs valaient des milliards et cet argent a naturellement attiré des gens dans la forêt. L'argent ne va pas dans les poches des travailleuses et travailleurs qui labourent dans la forêt. Qui en profite très concrètement ?
Die Hauptprofite aus dem Holzschlag sind bei 6 großen Konzernen.
Les principaux bénéfices de l'exploitation forestière sont allés à 6 grands groupes forestiers, qui étaient tous plus ou moins étroitement liés à des décideurs politiques. Ces 6 groupes forestiers se sont tous diversifiés depuis. Ils font maintenant du tourisme, de la promotion immobilière, ils sont dans l'industrie maritime, etc. Ils ont dû se diversifier parce que, bien sûr, la forêt est en grande partie épuisée et ne peut plus fournir les rendements qu'elle avait donnés dans les années 80 et 90. Celles qui en ont peu profité, ce sont les communautés indigènes locales, à savoir les gens qui vivent dans la forêt depuis des siècles, qui utilisent la forêt, qui utilisent, c'est-à-dire la forêt de manière durable. D'abord comme cueilleurs et chasseurs, puis comme agriculteurs, avec la culture de riz entre autres. On leur a promis développement et prospérité grâce à l'exploitation de la ressource qu'est le bois. En réalité, ces gens sont aujourd'hui encore très pauvres. Ils ont peut-être une route d'accès, mais ils n'ont pas de voiture pour la parcourir. Et ils disent souvent « nous voulons protéger la forêt car la forêt est notre supermarché ». Donc, nous n'avons pas besoin d'argent pour faire nos courses, parce que c'est notre approvisionnement en nourriture. Ils disent « la forêt est notre banque ». Donc c'est là que se trouve tout ce dont nous avons besoin. On a dit aussi souvent que la forêt est le capital des pauvres, mais si cette forêt est abattue, on prive les gens qui vivent en grande partie en dehors de l'économie monétaire de leur possibilité d'approvisionnement de base, de leur base de matières premières. Et cela a bien sûr des conséquences.
Grundversorgungsmöglichkeiten, ihre Rohstoffbasis, und das hat natürlich Konsequenzen.
Following a message from 1st of August 97 from a member of the Penan tribe in Sarawak to President Bill Clinton.
L'homme dont nous parlons aujourd'hui est quelqu'un qui a compris ces enjeux très tôt. Vous dites, Lucas Stroman, que la forêt est la banque des hommes. Bruno Manser a passé 6 ans, de 1984 à 1990, à plusieurs reprises dans l'État malaisien, a vécu avec les Penang, à partager leur quotidien, leur mode de vie, à attirer l'attention du monde sur la destruction de la forêt tropicale. Qui était Bruno Manser?
Jetzt, wer war Bruno Manser?
Bruno Manser war im Grunde genommen ein Suchender.
Bruno Manser était fondamentalement un explorateur. C'était un marginal au sens classique du terme. C'était un chercheur. Un chercheur autodidacte et une personne très curieuse. Et je pense que c'est aussi un philosophe parce qu'il s'est demandé comment les gens vivaient-ils à leur origine. Comment les gens vivaient-ils sans argent? Et c'était une question importante pour lui. Et Bruno a été très fasciné lorsqu'il a entendu qu'à Bornéo, le peuple indigène des Penang vivait dans la forêt de manière totalement nomade, sans agriculture ni élevage. Et cela l'a beaucoup intéressé, cela l'a attiré, et il a recherché ce mode de vie des origines.
Ganz nomadisch, ohne Ackerbau, ohne Viehzucht im Wald lebt. Und das hat ihn sehr interessiert und eben auch ohne Geld. Das hat ihn angezogen und er hat dieses ursprüngliche Waldleben gesucht.
With all my muscles, with all my blood, with all my hair and with all which is in my body, I ask for help. That he talks with our government in Sarawak, that they call back the companies.
Jetzt ist Bruno Manser in diesem Wald.
Bruno Manser a pénétré dans cette forêt et s'est approprié en quelque sorte cette forêt. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment cette appropriation a eu lieu?
Also Bruno Manser war natürlich unglaublich geschickt und auch in handwerklichen, praktischen Fertigkeiten.
Bruno Manser était bien sûr quelqu'un d'incroyablement habile, aussi avec des compétences artisanales et pratiques. Il a par exemple appris à chasser à la sarbacane, une technique extrêmement complexe et exigeante. Pour pouvoir chasser à la sarbacane, il faut d'abord évidemment trouver une sarbacane. Celle-ci est fabriquée à partir d'un bois spécial, un bois de sarbacane tout à fait particulier, utilisé depuis des siècles, un bois qui ne se trouve qu'à des emplacements bien précis. Ensuite, il faut des flèches, et les flèches sont obtenues à partir d'un palmier, de ses épines et de ses pousses épineuses. Et puis, il est tout à fait essentiel, il faut un poison, car une flèche seule ne tue pas un animal. Pour pouvoir faire tout cela, la première condition était de se lier d'amitié avec les Penang, de se lier d'amitié avec un peuple qui vivait vraiment dans et par la forêt, et aussi de comprendre comment cette forêt fonctionnait pour les Penang dans toute la cosmologie et dans toute l'économie. C'est un processus d'apprentissage intense et
intensiver und komplexer Lernprozess, stelle ich mir vor.
Absolut. Interessant ist, dass Bruno eigentlich einen bewusst naiven Zugang gewählt hat. Also das sieht man ja auch in seinen Schriften. Also
er wählt eine naive. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno a choisi une approche délibérément naïve. On le voit d'ailleurs dans ses écrits, il choisit un langage naïf. Je veux dire qu'il se comporte en fait comme un Humboldt qui a découvert des zones blanches sur la carte. Et avec cette naïveté délibérément choisie, mais c'était aussi sa personnalité, il s'est adressé aux gens et a dit « Bonjour tout le monde, je suis Bruno ». Il a déjà appris quelques mots en Penang à l'avance. « Aku Bruno, puis-je vivre un peu avec vous? Est-ce que je peux vivre avec vous? Est-ce que je peux apprendre avec vous? J'aimerais apprendre à connaître votre vie ». Et il a été accueilli très chaleureusement. Bien sûr, ils ont été surpris. Ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient bien vouloir faire chez eux. Et un ami de Bruno, Mitangurut, a dit que oui, il semblait que Bruno Manser était en fait un symbole de la société occidentale, l'individualiste total qui vient seul chez eux, qui se promène loin de sa famille. Parce que pour les Penang, la famille et la communauté sont très importantes. C'est justement dans la forêt qu'il est important de pouvoir compter sur une communauté, ceci face aux dangers naturels et aussi pour l'approvisionnement en nourriture. On dépend les uns des autres, même si l'on est peu nombreux. Et c'est pourquoi la forêt est peut-être aussi un facteur social, un facteur de création de communauté. Et non pas, comme le pensait Rousseau, que le soi-disant sauvage vit seul dans la forêt. Tout au contraire, que la forêt est créatrice d'une communauté. Et il est intéressant de voir que Bruno Manser a finalement joué un rôle entre le lien... un rôle de lien entre la Suisse et la communauté indigène de la forêt tropicale de Bornéo. Une communauté que nous ressentons encore aujourd'hui. Et, c'est-à-dire, on pourrait dire que nous la vivons
encore aujourd'hui.
Er musste an den Sagerbäumen an den Stamm klopfen, eine Kerbe machen und den Stamm klopfen. Nachher ist das Sager schön, haben sie nur müssen die rote Tasche drunter stellen.
Also gewissermaßen eine Wahlverwandtschaft.
C'est donc en quelque sorte une affinité élective que Bruno Manser a recherché dans cette forêt. Mais il a aussi documenté cette forêt. Il a été un infatigable documentaliste. Il a lu la forêt un peu comme un livre. Et maintenant, parlez-nous de cette documentation, Lucas Stroman. Expliquez-nous quelle était la valeur de ces travaux de documentation que Bruno Manser a
dokumentierenden Arbeiten, die Bruno Manser gemacht hat.
Also das ist natürlich der klassische Weg des Naturforschers. Also in Südostasien muss man in dem Zusammenhang.
C'est bien sûr la voie classique du naturaliste qu'il a choisi. En Asie du Sud-Est, il faut rappeler dans ce contexte Alfred Wallace, un grand explorateur et collectionneur britannique qui, au Sarawak, où Bruno Manser vivait dans la forêt, est parvenu pratiquement en même temps que Charles Darwin à des conclusions tout à fait similaires en matière d'évolution. Et au fond, on peut se demander qui a été le premier à avoir eu l'idée de mutation et de sélection compte tenu de la biodiversité retrouvée dans cette forêt. Je pense que Bruno Manser, même s'il n'était pas un chercheur avec une formation universitaire, a choisi une approche très scientifique. Il a dessiné, il a collecté, il s'est documenté, et tout cela s'inscrit bien sûr dans une tradition naturaliste d'investigation sur la forêt, sur les plantes, sur les insectes. Il les a dessinés et les a ensuite documentés dans son journal de recherche, ses journaux de la forêt tropicale.
Mit den Insekten, er hat sie gezeichnet und er hat es dann auch dokumentiert in seinem Forschungstagebuch, diesen Tagebüchern aus dem Regenwald.
Als ich 1984 hier nach Borneo kam, nach Sarawak, waren die Holzgesellschaften eigentlich noch ziemlich weit talwärts. Und sie hatten so die ersten Pnan-Gebiete zerstört im Apo und im unteren Tuto-Gebiet. Und eigentlich dann 1986, da wurde eine Brücke gebaut über den Tuto-Fluss und von dort an begann die Erschließung der Nomadengebiete. Und bis heute würde ich sagen, sind 2/3 der gesamten Pnan-Gebiete sind zerstört worden, das heißt gelockt worden. Und zerstört heißt, die Pnan finden nicht mehr genügend Nahrung, um ein glückliches Leben führen zu können.
Jetzt schauen wir doch ein bisschen auf die andere Seite seines Lebens, nämlich was er hier
regardons in der Schweiz maintenant un peu l'autre côté de sa vie, à savoir ce qu'il a réalisé ici en Suisse. D'une manière générale, quelles ont été ses actions pour faire connaître cette forêt dans cette région lointaine du monde?
Dieses Waldes da in dieser ganz weit entfernten Gegend der Welt.
Also man wusste ja schon seit den 70er Jahren, dass der Tropenwald gefährdet ist und dass der abnimmt. Also ich mag mich erinnern an so WWF-Heftchen über den Regenwald.
On savait déjà depuis les années 1970 que la forêt tropicale était menacée et que sa surface diminuait. Je me souviens encore de ces brochures du WWF sur la forêt tropicale. Mais dans les années 80, Bruno Manser a politisé ce thème d'une toute autre forme en disant « la déforestation en Asie du Sud-Est a quelque chose à voir avec nous ». Car à l'époque, de nombreux bois, y compris des bois tropicaux, étaient encore importés en Europe occidentale. Donc en 1992, Bruno a mené une grève de la faim devant le palais fédéral et voulait que l'importation de bois tropicaux de Malaisie soit interdite. Alors il a échoué dans cette revendication, mais un acquis politique à long terme de cette action, qui n'était possible que 12 ans plus tard, a été l'obligation de déclarer le bois. Les bois, les meubles, etc. doivent être déclarés. C'était aussi l'une de ses exigences. En fait, ce n'est que la deuxième revendication après l'interdiction d'importation avec laquelle il n'a obtenu gain de cause.
Und das war eine seiner Forderungen. Es war allerdings erst die zweite Forderung nach dem Importverbot, mit der nicht durchgedrungen ist.
Er war ja ein Erzähler,
c'était un narrateur de cette forêt. Il n'a pas seulement documenté cette forêt, il en a aussi parlé. Quelle importance cela avait-il?
Dieses Erzählen des Waldes, Lukas Straumann, wie wichtig war das?
Das war natürlich sehr wichtig. Also das war ja auch die klassische Projektionsfläche. Man denkt, ja, der Manser, der hat das
c'était
gemacht, was wir alle
important.
Wollen.
C'était aussi un peu la projection, n'est-ce pas? Parce que l'on se disait, oui, Manser, il fait ce que nous voulons tous. Il est tout simplement parti pour aller vivre seul dans la forêt de son propre chef, et moi, assis dans mon bureau, et le temps est moche. Peut-être que je devrais faire quelque chose comme ça. Donc Bruno nous a montré que nous pouvons vivre différemment si nous le voulons. En même temps, son projet de vie était bien sûr très individualiste. Tout le monde ne peut pas simplement jeter l'éponge et dire « je vais vivre dans la forêt ». Mais c'était aussi sa personnalité particulière, le fait qu'il soit prêt à accepter tous ces sacrifices et à prendre sur lui tout ce que cela implique.
These rivers were clear water. You could see the fish, you know, the back of the fish coming out of the water. And now the stones are very slippery from the mud.
Nun ist ja das alles, Sie haben es gesagt,
vous l'avez dit, Lukas Straumann, toutes ces forêts sont toujours en danger et de plus en plus menacées. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette forêt tropicale?
Also die Regenwälder von Südostasien gehören zu den bedrohtesten Regenwäldern der Erde. Es ist eine
Les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est font partie des forêts tropicales les plus menacées de la planète. Elles forment l'une des grandes régions de forêts tropicales avec le Congo et l'Amazonie. Mais l'Asie du Sud-Est a une masse terrestre moins importante. Cela signifie que les ports sont plus proches, que le bois peut être abattu et expédié plus rapidement pour ensuite être dirigé vers un marché d'exportation. Nous le voyons au centre du Bornéo, l'un des centres mondiaux de la biodiversité, où la forêt tropicale est toujours fortement menacée, toujours en forte régression. Je voulais juste évoquer le thème des plantations de palmiers à huile. Donc toutes les forêts pluviales de plaine de la partie malaisienne de Bornéo ont déjà disparu. Il y a encore certains endroits du Brunei où il y a encore quelques forêts en Indonésie, mais la menace existe toujours. Et la question est évidemment la suivante. Sommes-nous prêts, en tant que communauté internationale, en tant que pays riche comme la Suisse, à entreprendre quelque chose pour protéger ces forêts en collaboration avec les États nationaux où elles se trouvent? Parce qu'au fond, c'est un héritage de l'humanité. Bruno Manser s'est battu sans relâche pour cet héritage. Alors où en sommes-nous en matière d'attention politique, d'action
politique?
Also ich glaube, es gibt ein sehr großes allgemeines Bewusstsein.
Je pense qu'il y a une très grande prise de conscience générale, précisément dans le contexte du changement climatique, de la crise climatique, que les forêts jouent un rôle important pour le climat. La grande difficulté est de mettre en pratique cette prise de conscience générale, les idées ou même les propositions de solutions dans un contexte local. Qu'est-ce que cela signifie exactement si les forêts tropicales doivent être protégées? Cela signifie qu'au lieu d'une plantation de palmiers à huile où je peux réaliser un profit de 3000 dollars par an et par hectare, je dois me contenter d'une forêt qui rapporte peut-être 30 dollars de profit si nous avons un facteur de 100. Mais en même temps, la forêt a une importance centrale à long terme et à l'échelle mondiale pour le climat et pour la biodiversité. Donc, d'après notre expérience, nous constatons que nous pouvons avoir le plus grand impact en travaillant avec les gens sur place. Les communautés locales connaissent la valeur de la forêt. Elles ont aussi un intérêt à long terme. Elles veulent que les enfants et les petits-enfants puissent encore vivre dans la forêt ou de la forêt. Mais en même temps, ces gens veulent aussi mener une vie moderne et autonome, et c'est ce que nous essayons de leur permettre. Pour cela, nous misons beaucoup sur les systèmes dits agroforestiers, à savoir que certaines zones, les forêts primaires qui sont encore là, doivent absolument être protégées. Mais pour ce qui est des forêts dégradées, où il n'y a plus autant de vieux arbres, on se demande aussi s'il est possible de les exploiter d'une façon durable. Existe-t-il des formes d'exploitation traditionnelles qui peuvent être adaptées et modernisées? Et peut-on faire en sorte que les gens y génèrent des revenus et vivent de ces revenus sans détruire la forêt?
Gibt es auch traditionelle Nutzungsformen, die adaptiert, modernisiert werden können, dass die Leute dort auch Einkommen erzielen können und und mit diesen Einkommen leben können, ohne den Wald zu zerstören.
Im Wald, eine Kulturgeschichte. In dieser Episode haben wir die Geschichte von Bruno Manzer erzählt.
Dans la forêt, une histoire culturelle. Dans cet épisode, nous avons raconté l'histoire de Bruno Manzer, protecteur de la forêt, aventurier, activiste et chercheur porté disparu depuis le 25 mai 2000. Dans un entretien avec lui, Lucas Stroman, directeur du Bruno Manzer Fonds, avec des sons originaux et des enregistrements de Bruno Manzer mis à disposition par les archives de Bruno Manzer Fonds, avec les questions de Christophe Keller et les traductions lues par Zia Delmay. Ce podcast peut être écouté dans l'exposition et en dehors, sur Spotify, Apple Podcasts et partout où il y a de bons podcasts. Aussi sur le site web du Musée National Suisse. Le podcast « Dans la forêt, une histoire culturelle » est une production de Podcast Lab, www.podcastlab.ch.